Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tout un programme, le titre, le sous-titre en fait, de cette émission, Un Gaulois chez les Hindous. Nous étions au milieu des années 50, quelques années donc après l'indépendance de l'Inde. Le soleil se levant sur le Gange, le caractère sacré des vaches, mais les taureaux sont également sacrés. Les bûchers, les serpents. Image non pas d'Épinal, mais de Bénarès. Le monde comme il va, Un Gaulois chez les Hindous, première diffusion sur la chaîne parisienne le 27 juin 1956.
Dans la série « Le monde comme il va », la radiodiffusion télévision française présente « Un Gaulois chez les Hindous », une émission de Georges Guette et Jean Rabault, mise en onde de Lucienne Noblet.
Nous sommes à Bénarès, c'est un jour de pèlerinage. Nous sommes sur les Ghâts, c'est-à-dire sur la berge nord du Gange, qui est aussi la berge sacrée. La berge sud n'est pas sacrée, du reste elle est déserte, donc sans intérêt. Au sommet de la berge nord, c'est une frange de palais et de temples, à flèche d'or du reste. C'est une chevauchée de bâtiments, dans une verdure assez pauvre d'ailleurs.
Ils ont un style, vos bâtiments?
Ah oui, on trouve là tous les styles de l'Inde, enfin depuis les styles du sud jusqu'au style himalayen.
Ça va donner une variété de formes étonnante.
Ah, extraordinaire, en effet. Cette profusion de styles vient de ce que chaque Maharaja, n'est-ce pas, bâtit là son palais pour ses pèlerinages et ceux de son peuple. Il y a également toutes sortes d'animaux, car il y a à Bénarès des singes, des vautours, des vaches, des mulets, des taureaux, etc., etc. On n'en sort pas jusqu'aux mangoustes et aux cobras, évidemment.
Et alors, toute cette faune en liberté.
Ah, tout à fait en liberté, la plus grande liberté. Et dès le matin, les vaches, les taureaux, les chèvres, les mulets se promènent le long de ces ghâts pour tâcher de trouver quelques fleurs, enfin quelque chose à manger. Évidemment, ce sont les chèvres qui sont les plus habiles, n'est-ce pas, et sont les seules à pouvoir se promener sur les escaliers, enfin sur les fameuses terrasses qui descendent du sommet de la berge nord du Gange jusque dans le Gange lui-même. Descendent quelquefois pendant 150 et même 200 mètres, et ça s'étend ainsi sur 5 km. Autrement dit, c'est un amphithéâtre.
À quelle heure nous situons-nous? Nous sommes au matin.
Au matin, avant le lever du soleil, n'est-ce pas? Comme c'est un jour de pèlerinage, les pèlerins viennent les premiers pour voir le soleil se lever sur le Gange. Évidemment, les gens de Bénarès ne viennent pas tous parce que le voient tous les jours et pour eux c'est moins extraordinaire.
Mais est-ce qu'il y a une espèce de communion obligatoire tous les matins pour les gens de Bénarès?
Ah oui, oui, ils doivent chaque matin venir faire leurs ablutions dans le Gange, mais ils ne sont pas forcés de commencer par ça. Ils peuvent très bien se rendre au temple d'abord. Et ainsi, il y en a qui vont au temple et qui ne viennent boire du Gange qu'à 9h ou 10h du matin. Ils en profitent du reste pour faire leur lessive, pour se laver eux-mêmes, enfin, et même pour acheter quelques légumes, car on fait aussi un peu le marché sur les ghâts, après les ablutions, bien entendu. D'autres, par contre, tiennent beaucoup à voir le soleil s'élever au-dessus du Gange et à lui offrir un peu d'eau du Gange dans les mains. Et ce sont surtout les brahmanes qui tiennent à ça, et les pèlerins, évidemment, qui, eux, ne voient le Gange et le soleil se lever sur le Gange qu'une ou deux fois par an et encore pas toujours.
En fait, une offrande au soleil, mais est-ce que c'est le soleil qui est la figure, comment dire, centrale de la religion ou de la mythologie hindouiste?
Oh, c'est une des figures. Elles sont nombreuses, les figures importantes de la mythologie hindoue. Le Gange est tout aussi important que le soleil, mais ce qui est très important, c'est de voir le soleil se lever, s'élever au-dessus du Gange. Car le culte du soleil est très vieux. Du reste, nous l'avons connu en Occident également sous le nom de Mitra. Les hindous l'appellent Surya. Et pour eux, enfin pour le peuple, selon la légende, il soutient le ciel, il soutient la terre également, et surtout il guérit les maladies.
J'essaie de me représenter avec vous cette immense rumeur qui s'élève du soleil. Et quel est le tableau, en somme, n'est-ce pas? Les gens sont là, les bêtes en liberté, on va faire ses ablutions, on va, on revient, on fait son marché. Mais en définitive, enfin, à quoi tout ça mène-t-il? À quoi tout ça sert-il dans l'esprit des gens qui sont là?
Faire ses ablutions dans le Gange, c'est un rite obligatoire. Dès que le soleil paraît au-dessus du Gange, tous ceux qui discutaient de toutes sortes de choses se taisent, n'est-ce pas, rentrent dans l'eau jusqu'à la taille, joignent les mains, prient ou bien offrent de l'eau au soleil. Et il y a même une sorte de rumeur, n'est-ce pas, générale qui monte vers l'astre et on lui demande d'apporter la fécondité, la santé, des enfants mâles. Et toutes sortes d'autres choses, évidemment.
Mais et les vaches dans tout ça? Vous pensez bien, vous venez m'emmener aux Indes, vous venez nous emmener aux Indes. La première question qu'on se pose, parce que tout le monde a vu les photographies, et tout le monde se représente, si j'ose dire, l'Inde un peu derrière un écran de vaches, mais qu'est-ce qu'elles font là-dedans? Quel est, si l'on ose dire, le statut? Comment vivent-elles? Enfin, en quoi consiste leur caractère sacré?
Eh bien, elles sont tout à fait indépendantes. La vache est sacrée, on ne demande pas pourquoi, car on vous répond, c'est comme ça. La vache est sacrée, et cela vient du fait que les hindous ont grand besoin des vaches. Elle est tellement sacrée que Gandhi lui-même a prôné la vache au-dessus des mères de famille. Enfin, quant à celle de Bénarès, eh bien, elle représente la dignité de la vache. Quand on les rencontre le matin au temple, on se frictionne le visage à l'aide de leur queue, et on leur apporte de quoi manger, du fourrage, car elles sont tout à fait indépendantes, évidemment, et elles ne sauraient trouver à manger ailleurs qu'au temple. Elles ont du reste leurs habitudes, elles se rendent chaque matin au même temple, elles ne vont pas à d'autres temples, et on les orne souvent de toutes sortes de choses, colliers de perles bleues ou rouges, douilles en or à l'extrémité des cornes, et que sais-je encore. En fait.
Mais elles n'ont pas de propriétaire?
En principe, non. Elles connaissent simplement les gens qui les nourrissent, car il y a évidemment une bande, un groupe de personnes dévotes qui, chaque matin, leur apportent de l'herbe fraîche ou alors de l'herbe séchée, du foin.
Ça. Mais vos vaches de Bénarès sont bien nourries, alors.
Elles sont bien nourries et très grasses. Ce n'est pas du tout comme à Delhi ou à Bombay où elles sont maigres.
C'est ce que fallait vous objecter, parce que j'ai été très frappé au cours d'un court passage à Delhi et dans les bourgades avoisinantes de voir combien ces vaches étaient à l'abandon, malheureuses, enfin se nourrissant de ce qu'elles pouvaient, quelquefois même de papier journal.
Papier journal, oui. Non, mais cela vient de ce que ces villes-là sont immenses. Évidemment, tandis que Bénarès, c'est un village. Toute la vie de Bénarès se concentre au bord du Gange, tout est là, n'est-ce pas? C'est très petit. Et pour les vaches, il est très simple, se rendre au temple chaque matin, elles sont connues de tout le monde, n'est-ce pas? Elles connaissent tout le monde, elles connaissent leurs endroits, elles ne se perdent jamais, ne s'égarent jamais, elles ne peuvent donc pas mourir de faim.
Est-ce que tout un chacun a le droit de les traire?
Ça dépend. Pas toujours. En général, ce sont les personnes qui s'en occupent. Car il y a également des maisons de santé pour vaches, des maisons où on soigne les vaches. Alors ces personnes, ainsi que celles qui les nourrissent, s'occupent de les traire et on distribue le lait aux pauvres devant les temples, comme au temple de Vishvanath, etc. Du reste, les œuvres pour vaches, si je puis dire, sont protégées et sont financées par certains riches personnages de Bénarès et d'autres villes. Ils font œuvre pie en s'occupant des vaches et en font distribuer le lait aux pauvres.
La vache est sacrée, il est interdit de la tuer, mais à quoi est-ce qu'on s'expose exactement quand on a le malheur de tuer une vache?
Tout dépend un peu du lieu où ça se produit, mais enfin, j'ai vu récemment à Indore, n'est-ce pas, un homme condamné à 7 ans de prison ferme pour avoir tué une vache.
Est-ce que l'évolution moderne de l'Inde, enfin, sa liberté, sa constitution parlementaire, la diffusion des idées occidentales, en bref, tout ce qui rapproche l'Inde d'un État à la page, a jusqu'ici atténué cette religion, ou nous serions tentés de dire, cette superstition de la vache?
Eh bien, oui, mais dans une très très petite mesure. C'est ainsi qu'à Bombay et à Calcutta également, il y a des abattoirs où on tue les vaches. Et on peut acheter dans l'Inde, dans certaines boutiques, des beefsteaks, n'est-ce pas? Des beefsteaks de vaches indiennes et de vaches tuées dans l'Inde. Mais enfin, c'est un peu un travail hors la loi, si je puis dire, bien qu'on le permette, mais le peuple n'en est pas informé et en tout cas ne veut l'ignorer.
Et le taureau?
Ah, mais le taureau est également très sacré. C'est que le taureau est dans la mythologie le véhicule de Shiva, car chaque divinité hindoue a un véhicule. Et le taureau est celui du dieu Shiva. De plus, il représente le pouvoir créateur et destructeur de ce dieu. Et quand il passe dans Bénarès avec toute sa majesté, car il est très haut et il a une bosse sur le dos qui lui donne beaucoup d'allure, il est blanc de couleur également, et bien quand il passe, tout le monde le regarde avec beaucoup de respect. Et vous voyez souvent dans le bazar des gens le caresser affectueusement, mais aussi respectueusement. Ils se nourrissent du reste comme les vaches. Ils ont également leur temple. Et mieux encore, ils ont leur boutique. Ils sont un peu comme ces moines mendiants. Ils vont mendier, après avoir mangé au temple, ils vont mendier un peu de nourriture chez les marchands. Et certains de ces taureaux y vont même tous les jours, et chez les mêmes marchands, au point que les pèlerins les regardent comme des vedettes absolument.
Vous parliez à l'instant du bazar. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Ah, certainement. Le bazar, eh bien, c'est tout d'abord un labyrinthe. C'est une canalisation qui déverse un flot d'animaux de toutes sortes et aussi de gens, d'êtres humains. T'es dans ce bazar ainsi. Vous avez de riches étalages de soie, de brocart, et à côté de ça, des bouses de vaches fraîches. Enfin, et vous avez également des sadous, enfin des saints, et enfin des tout petits temples nichés dans les petits coins. Il y a aussi le grand temple, du reste, à Bénarès. Et ainsi, les gens, après avoir fait leur ablution dans le Gange, se rendent aux temples qui sont dans le bazar, ou tout au moins aux alentours du bazar.
Eh bien, si vous nous conduisiez dans un temple pour nous montrer ce que c'est et nous expliquer en quoi consistent les offices.
Mais volontiers. Un temple, c'est avant tout la demeure du dieu. Et avant d'être une œuvre d'art, il se présente comme un diagramme, comme un résumé de l'univers, comme le microcosme, si vous voulez. Selon la cosmologie traditionnelle hindoue, c'est un mont cosmique, le Meru, qui marque le centre de l'univers. Ce mont se dresse sur un continent central qui s'appelle le Jambudvipa et s'enfonce sous la terre. En somme, c'est ça que le temple représente, et il a pour but d'harmoniser le monde terrestre avec le monde divin. À l'intérieur, eh bien, il se compose d'un sanctuaire assez obscur où trône la divinité et d'une salle hypostyle où les fidèles se rassemblent, et d'une petite marche cependant pour que les fidèles qui ne sont pas brahmanes ne la franchissent pas, pour qu'ils n'aillent pas trop près du sanctuaire. Seuls les brahmanes peuvent aller tout à fait devant la divinité. Quant au culte, il peut être très différent. Ainsi, chez les adeptes de Shiva, il consiste à asperger d'eau le phallus de pierre qui symbolise l'aspect non manifesté du dieu Shiva. Tandis que chez les adeptes de Vishnu, les offrandes sont beaucoup plus abondantes, offrandes de riz, de beurre et toutes sortes de choses. Également, on chante beaucoup, et même chez les adeptes de Shiva, on chante aussi, mais les jours de fête seulement. Et on danse, il y a des devadasis, des sortes de prostituées, mais esclaves du dieu, n'est-ce pas, qui dansent devant la divinité.
Thank you. Nous voici sortis du temple, mais dans cette foule toujours aussi grouillante, toujours aussi dense et toujours aussi dépenaillée, aussi miséreuse, qu'est-ce que c'est que cet homme-là complètement nu et qui est couché par terre?
Ah, comme vous le traitez, et c'est un saint homme, c'est ce que les hindous appellent un sadhu. Voyez-vous, il est couché par terre et il pratique l'exercice des cinq feux, c'est-à-dire il a quatre feux alimentés de fientes sèches autour de lui, qui brûlent autour de lui, très proche de lui du reste, et c'est le soleil qui pourvoit perpendiculairement au cinquième. La position n'est pas très confortable et ces gens qui l'entourent sont des gens qui le vénèrent. Ça prouve qu'il passe pour un homme très saint. Et du reste, il y en a.
Pourquoi y a-t-il cinq feux?
Ah, c'est comme ça. C'est un exercice très dur à soutenir, paraît-il. Il y a du reste beaucoup d'exercices pour les yogis, ainsi les graines, par exemple, la semaine blanche, la semaine noire, une graine par jour jusqu'à 15 par jour pendant la semaine blanche, et puis 15 graines par jour jusqu'à une par jour pendant la semaine noire. Il y a toutes sortes d'exercices, mais les cinq feux est assez difficile, et il y a peu de yogis qui s'y hasardent. Enfin.
Dites-moi, mais il a l'air d'avoir du succès, votre homme, là. Je vois une espèce de type, là, avec un instrument à cordes, et qui s'apprête à chanter, qui s'arrête, et puis qui se met à lui faire une espèce de, comment dire, de chant à sa dévotion.
ਘਰ ਕੇ ਆਂਗਣ ਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਕਾ ਘੇਰੋ ਰੇ ਘਰ ਕੇ ਆਂਗਣ ਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਕਾ ਘੇਰੋ.
C'était bien sa louange qu'il était en train de chanter là ou qu'il continue à chanter encore?
Exactement, ça prouve qu'il a beaucoup de succès et celui-ci ne doit pas avoir beaucoup de peine à se nourrir. Les gens doivent se précipiter pour lui faire l'aumône, ou plus exactement pour accepter ses aumônes, car selon la tradition hindoue, c'est le donateur qui remercie, car c'est le saint homme qui fait l'aumône du fait qu'il veut bien recevoir celle du donateur. Mais vous savez, il y a d'autres sadhus, enfin d'autres yogis qui n'ont pas autant de succès, qui n'ont pas autant de chance, et qui sont obligés de faire tinter un petit grelot devant la boutique des marchands pour attirer l'attention de ces derniers, pour recevoir quelques grains de riz ou un peu de sauce au curry.
Parce qu'il y a les vrais sadhus reconnus comme tels, et puis ceux qui sont discutés, ceux auxquels on ne croit pas, et ceux qui sont obligés de faire un peu de commerce, enfin, pour...
Oui, il y a évidemment, il y a 6 millions de religieux errants dans l'Inde, n'est-ce pas? Il y a donc forcément eux qui ont choisi la carrière religieuse pour mener une existence plus reposante. Enfin, il y en a également beaucoup qui prennent ça très au sérieux, mais parmi ceux-ci, il y a aussi les vieux qui sont arrivés à un degré de sainteté important, et puis les jeunes qui n'ont pas encore fait leurs preuves, et pour ceux-ci, la vie est plus dure, ils doivent se donner du mal pour manger tous les jours.
Il n'y a pas de définition officielle du sadhu, c'est une espèce de consentement public qui leur accorde cette qualité-là, n'est-ce pas? On est reconnu sadhu dans la mesure où on est admis comme tel par un certain nombre de gens, ni plus ni moins. Eh bien, il n'y a pas de brevet pour ce métier-là, si vous voulez.
On est sadhu dès l'instant qu'on est un religieux, c'est-à-dire un moine errant. Enfin, il y a des sadhus renommés et d'autres qui le sont moins, mais enfin, tous ceux qui sont religieux et religieux errants sont des sadhus.
Mais un sadhu et un brahman, ce n'est pas la même chose?
Ah, pas du tout. Un brahman, c'est un prêtre, c'est un homme qui appartient à la caste sacerdotale, tandis qu'un sadhu, c'est un hors-caste, c'est un impur, n'est-ce pas? On ne peut pas changer de caste dans l'Inde. Le seul moyen de quitter sa caste, si elle ne convient pas, n'est-ce pas, c'est de la quitter en se faisant religieux. Alors, on est donc hors-caste, on est impur, au même titre qu'un Européen, qu'un étranger, mais... On est un impur d'honneur, on n'est pas très respecté parce que la vocation religieuse est très, très considérée dans l'Inde.
Mais dites-moi, les charmeurs de serpents n'ont aucune espèce de rapport avec ces institutions ou ces personnages religieux que sont le brahman d'un côté et le sadhu de l'autre?
Ah non, le charmeur de serpents est un homme qui gagne sa vie en charmant les serpents, mais il n'obéit pas, comment dirais-je, à sa vocation, enfin à une vocation religieuse. On les rencontre souvent aux mêmes endroits, car le charmeur de serpents, comme le sadhu, vide au monde. Donc,
vous ne croyez pas si bien dire, en voilà un avec une espèce de turban et puis une espèce de, comment dire, de banjo qu'il a là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça n'est pas là le vrai nom, une espèce de banjo et autour, je vois des najas qui sortent d'une espèce de panier qu'il découvre. Dirigeons-nous maintenant vers les bûchers qui ne sont pas loin, parce que j'aperçois d'ici ce que j'imagine être le four crématoire municipal, si j'ose dire. C'est bien ça que nous voyons d'ici.
Oui, c'est bien ça. Du reste, nous sommes revenus au bord du Gange, sans sortir du bazar, car après les ablutions, le Gange sert de bazar. Et en effet, les bûchers sont là, sur les gâtes, au bord de l'eau. Du reste, à 10h du matin, c'est l'heure à laquelle ils ne fonctionnent plus, et tous les morts de la veille brûlent presque joyeusement, car c'est la place des fêtes, enfin, c'est l'endroit le plus animé, le plus coloré de Bénarès, où l'on brûle les morts.
Je vois autour des bûchers des femmes avec leurs saris qu'elles rabattent sur les yeux. Il y a une espèce de rite, enfin, ce sont d'abord les femmes qui parlent et puis les hommes qui font la louange du défunt, ou bien...
Oh, pas nécessairement. En général, même, on fait assez peu la louange du défunt. Quand on le brûle, il y a assez peu de gens qui assistent à sa crémation. Quoiqu'à la campagne, les femmes viennent assez nombreuses, mais ne restent pas très longtemps. Elles assistent au moment où on met le feu au bûcher et puis s'en vont. Et les hommes restent, un ou deux restent jusqu'à ce que le mort soit tout à fait brûlé, car... Et contrairement à ce qu'on pense, il brûle tout à fait, il ne reste absolument rien qu'un petit tas de cendres qu'on jette ensuite dans le Gange.
Il faut que ça disparaisse complètement, n'est-ce pas? J'ai employé tout à l'heure le mot four crématoire, mais ça évoquait des idées de Père Lachaise qui n'ont aucune espèce de rapport avec la réalité de ce que nous voyons là. Il ne s'agit absolument pas de cendres qu'on recueille, qu'on conserve, qu'on met dans une espèce de case ou bien qu'on s'apprête à garder sur sa cheminée. Il s'agit d'une disparition systématique et volontaire avec jet dans le fleuve. Et pourquoi dans le fleuve?
Parce que le fleuve est sacré et ça ne peut faire que du bien. Ça ne peut faire que du bien à l'âme du défunt. Enfin,
Oui, et ces gens-là, vous le soulignez, ils ont l'air joyeux. Mais joyeux pourquoi? Qu'est-ce que la mort signifie pour eux exactement?
Oh, la mort ne signifie rien de très grave. Enfin, c'est un moment du rêve de Brahma où Brahma croit qu'il n'est pas Brahma. Mais si j'ai dit que ça ressemblait à la place des fêtes, c'est parce que, précisément, à côté des bûchers, comme vous voyez, il y a des enfants qui se battent dans l'eau ou qui se battent à coups de fleurs. Personne à 2 mètres du bûcher ne se soucie du mort qui brûle et personne ne s'en attriste. Enfin, c'est un fait tout à fait naturel, même beaucoup plus naturel qu'un enterrement qui traverse les rues de Paris.
Si nous revenions à notre charmeur des serpents, parce que pendant que nous parlions... crémation. J'oubliais de vous poser les questions que n'importe quel Européen, n'importe quel Français vous poserait. Ces serpents, d'abord, il y a d'une part les najas, qui sont venimeux, les pitons qui ne le sont pas, mais ces najas, est-ce qu'ils sont réellement venimeux? Je veux dire, nous supposons qu'ils le sont, mais est-ce qu'ils le sont en réalité pour le personnage en question? Est-ce qu'ils ont été privés de leur venin?
Oui, en général, oui. Lorsque le charmeur de serpents s'approvisionne chez un marchand, ces marchands qui vendent à la fois des oiseaux, des mangoustes, des serpents et même des pitons, il peut acquérir des serpents qui n'ont plus de venin. Évidemment, s'il s'approvisionne chez quelqu'un de moins sérieux, chez un type qui fait le métier d'aller les cueillir dans les bois, il risque fort de tomber sur un cobra avec tout son venin. Mais vous parliez des pitons, à vrai dire... Les pitons servent à un autre genre de spectacle. Les pitons sont sous-alimentés. On ne leur donne à manger qu'une souris, une petite souris par mois, alors qu'ils pourraient manger un veau tous les 2 jours, n'est-ce pas? Et alors, on les prête, on les loue, plus exactement, aux touristes en mal photo sensationnel, et on les leur pose sur les épaules. Le piton ne meurt pas grâce à la souris qu'il mange par mois, il survit, mais il n'a pas la moindre énergie, et ainsi... absolument sans danger. Alors on prend la photo extraordinaire qu'on envoie ensuite à sa famille en Europe.
On
Quand on a rodé tout son sou sur les gâtes et dans le bazar, un jour de pèlerinage à Bénarès, il n'y a plus qu'à se rendre à la gare, car c'est là que les pèlerins s'installent avant de trouver de la place dans un train. Oh, ça ne va pas tout seul, ils attendent quelquefois cette aubaine pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, n'est-ce pas, tant l'affluence est grande, et cependant les trains sont nombreux, mais il y a des milliers de gens à caser. Ils attendent du reste sans trop se soucier, ils se réunissent par groupe, ils s'installent sur les quais, au milieu de leurs baluchons, ils somnolent ou bien même s'épouillent pendant qu'ils font cuire un peu de riz sur un feu de bouse sèche toujours, n'est-ce pas? Et quelquefois, pour tromper l'impatience, ils font de la musique ou bien ils chantent. Voici par exemple des musiciens du sud qui sont venus à Bénarès pour faire de la musique devant le dieu Shiva, qui maintenant chantent, enfin plutôt font de la musique pour se passer le temps. Les trains se succèdent à une cadence rapide. Évidemment, le gouvernement prévoit toujours un service spécial pour les jours de pèlerinage. Des vagues de pèlerins déferlent sur les quais de la gare et bousculent les autres pèlerins qui ont choisi de dormir tranquillement pendant 2 ou 3 jours. Les gens s'entassent dans les wagons. Et puis le train repart aussi chargé à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, c'est une bataille, tout d'abord, n'est-ce pas? Les hommes veulent que les baluchons aient la meilleure place. On place donc les baluchons sur les banquettes, et ensuite les hommes se placent de préférence sur les plateformes à bagages. Quant aux femmes, eh bien, elles se placent où elles peuvent, et les enfants aussi, on n'en fait pas grand cas, à vrai dire. On a beau se bousculer, on a beau s'apostropher, s'insulter, rien n'empêche le petit mendiant traditionnel d'aller tout le long du train par le chemin des marchepieds et d'entrer dans chaque wagon pour jouer son air de flûte, son air de flûte dédié à Krishna. Ce mendiant n'a pas même 8 ans, mais comme on voit, il n'a pas son pareil pour calmer, pour charmer même des voyageurs surexcités. Et tel le dieu Krishna, le dieu Bouvier, il n'a besoin que d'une flûte. Chacun lui donne son nana et tout va pour le mieux.
Tout est pour le mieux, vraiment? Vous avez une appréciation absolument confondante.
Pourquoi pas? Les hindous ont bien le droit de trouver leur bonheur ailleurs que là où nous le trouvons.
Dans la série Le Monde comme il va, vous avez entendu Un Gaulois chez les Hindous, une émission de Georges Guette et Jean Rabault, mise en onde de Lucien Noblet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 27 juin 1956.